Salut tout le monde et bienvenue à Deal Avec, épisode de Pat Lagacé. Et j'avais hâte de recevoir Pat parce que c'est quelqu'un que j'ai très peu croisé dans le showbiz. Et souvent, c'était en coulisses, salut, salut. Donc, je pense que ça a été des jasettes de 10 mots et moins. Donc, et j'étais surtout content de voir qu'il a accepté tout de suite. Puis j'avais hâte de je savais qu'on allait avoir des débats d'opinion sur certaines choses, c'est ce que je voulais. J'aime ça être challengé, même si je pense que j'ai toujours raison. Je vous confirme que dans ce cas-ci... Ça a été une chaude lutte sur certains sujets. Et j'avouerais que, un peu style vraiment à la Rocky, man, juste comme je pensais que je gagnais, Chris, je me suis ramassé au tapis. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une suite. C'est comme tout bon Rocky qui se respecte. Évidemment aussi, on a fait une demi-heure, juste Pat et moi, sur Patreon, à la fin de l'épisode. En fait, c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec tous les invités. Pour aller un petit peu plus loin dans le déconnage et dans la folie. Fait que, hey, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Au Patreon, la tribu à Max s'en vient quand même pas mal remplie, on a bien du fun avec ça. J'en profite pour le dire aussi, mon nouveau show, je sais pas quand est-ce que cet épisode-là sera diffusé, mais je viens de l'annoncer ou je vais l'annoncer, il va y avoir une infolette, fait que taguez-moi, en fait, soyez sur tous mes réseaux sociaux, et honnêtement, vous allez savoir où ce que le clown se déplace à travers la province pour venir vous dire bonjour. Mais d'ici ce temps-là, on commence ça avec Pat Lagacé et la leçon d'humilité de Maxime Martin. On n'a pas vraiment l'intro officielle.
Non, tu vas en faire après.
Ouais.
OK, parfait.
Mais faut que je te confesse que ça fait une semaine à peu près que je sais que tu viens. Ouais. Ça fait une semaine que je pense à comment je vais commencer l'entrevue.
OK. C'est quoi la première question?
Ben, en fait, c'est même pas ça. Je me disais que c'était surtout l'angle. J'ai comme envie de connaître le côté un peu plus loufoque de Pat, aussi, puis de voir le côté. Non, mais on va y arriver un moment donné, puis en même temps, c'est con de passer à côté.
Peut-être qu'il n'y en a pas.
Alors, arrête. Non, on ne commencera pas avec la façade de le mur de Pat.
Non, mais écoute. Moi, j'aime dire que je suis drôle, mais le gag, c'est que je suis pas drôle.
Mais c'est parce qu'en général, quand c'est toi qui le dis...
Quand t'as besoin de le dire, oui. Mais il y a comme un deuxième niveau. Je sais que je suis pas si drôle, mais je joue le personnage du gars qui pense qu'il est drôle. À télé, à radio, des fois. Mais je suis pas si drôle que ça. Je suis pas the life of the party, tu sais.
Non, ça, je m'en doutais. Mais pas d'une façon méchante. Dans
non,
le
non,
sens
mais non, mais bien sûr.
Non, mais toi, t'es le gars assis au bout de la table qui observe.
Exact. Je parle pas toi.
Ouais. Avec tes chums, je parle.
Avec mes chums, oui. Non, avec mes chums, je parle beaucoup, mais dans un contexte.
Ouais, mais même à travers
social,
ça, je suis convaincu que t'as.
Si je connais pas tout le monde, je parle pas.
Analytique?
Oui, je reste là. Puis, tu sais, c'est le bon vieux principe du. Comment je te dirais ça? Si. Comment on dit ça? Ah, c'est ça. Vaut mieux rien dire que de confirmer que t'es niaiseux ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que...
Ah!
Non, mais. Ouais.
Moi, tu vois, pendant longtemps, j'ai assumé que j'étais niaiseux.
Mais toi, t'es un funambule, t'es un humoriste. Fait que la peur d'avoir l'air niaiseux chez vous, vous la combattez tout le temps.
Mais en fait, non, c'était même pas plus que... Je me souviens quand j'étais jeune, quand je travaillais au Québec, je commençais, puis je me tenais avec des...
Hey, tu viens du Manitoba.
Ben, de l'Ouest canadien, ouais, un peu partout. Mais en fait, je suis pas né là-bas, mais j'ai grandi... Mon adolescence, puis jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais dans l'Ouest canadien. Okay. Puis j'arrivais ici, puis tu connais-tu tel groupe, t'as-tu lu tel livre, et je faisais souvent semblant, pour pas avoir l'air épais.
De façon convaincante.
Oui, oui, ça par contre, oui. Ah, ben oui! Puis, vu de changer de sujet, puis t'as-tu ça? Ouais, et ça me rappelait aussi ce que... Et là, je tombais sur quelque chose que j'avais lu ou que j'avais écouté ou tu comprends, oui, tu sais, c'est oui. Comme... Ouais, ouais, non, non, c'est ceinture noire plein de marde, là. Et...
Ceinture brune.
Et voilà, tu vois, t'es garde, tu vois.
Hein? OK, hein? Je te dis, j'ai un avenir en humour. Un jour, quelqu'un va me découvrir.
Imagine, première partie sur mon poster, première partie de Maxime Martin. Pas de l'agacer. Hein? Le monde regarderait moins de le poster 3-4 fois. Mais la journée, j'ai commencé à dire non, je ne sais pas c'est quoi, ça m'a libéré. Pas avoir peur d'avoir l'air niaiseux, okay. C'est ça que je te dis.
C'est arrivé à quel âge?
Début vingtaine. J'étais curé de faire semblant. Puis c'est ce qui m'a amené à découvrir des trucs extraordinaires, autant au point de vue musique, littérature. C'est comme ça que j'ai découvert mon livre préféré, Les Rois Maudits. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça, mais bon. Mais.
Parce que j'ai un grand talent pour faire parler le monde.
Exactement. Ben, en fait, c'est du quoi ça, c'est une affaire? Je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai le même défi avec toi que j'ai avec Marie-Claude Barrette.
Ben, c'est sûr. C'est sûr. On est. Écoute, je te le dis, les gens qui font des entrevues, on est souvent des mauvais interviewés. Moi, j'estime
défi
que.
Défi relevé!
Non, mais pour vrai, j'estime que je suis un mauvais interviewé. Quand j'y vais en entrevue, souvent, je me dis après, hey, j'étais vraiment pas, j'aurais dû rester chez nous.
Pour vrai?
Ouais.
Mais pourtant, tu me prends. Tu sais, on s'est parlé. Tu me parlais, c'est pas comme quelqu'un de fermé, là. Tu sais, t'as pas fait.
Non,
hey,
c'est pas.
T'as l'affaire. Tu dis, là, on go, amuse-toi.
C'est pas d'être fermé, mais tu sais, moi, je suis de l'autre côté, je reçois des invités, puis les bons invités ont des qualités que j'ai pas. C'est une sorte de dénuement, puis c'est une sorte de volonté de parler, tu sais.
Ouais.
De mon bord, pas tant que ça.
Non, mais.
C'est un gros défi.
Ben, c'est correct, je vais le faire. Ben, je me suis avec Marie-Claude Barrette. Ben, là, il est trop tard, c'est pour poser une première question. Fait que t'as gagné. Mais avec Marie-Claude Barrette, à un moment donné, elle me parlait. Et puis, à un moment donné, j'ai regardé justement. Ben, c'était Chuck derrière la console. J'ai fait. On est parti à rire. Elle dit qu'est-ce que j'y ai, quelle heure? Elle dit ça faisait 11 minutes 26 que je lui parlais avant qu'elle la pose la première question. Okay. Là, avec toi, je pense que j'ai même pas fait 2 minutes et demie. C'est correct. Puis, c'est du coup, je me. Bizarre, voici ce que je pensais en m'en venant. Un, je te niaise pas. Je veux t'inviter. Là, je suis en rodage de mon prochain show d'humour.
OK.
Je sais pas que je précise show d'humour.
On le sait.
Avec, j'ai une autre annonce de.
On le sait. C'est comme monter en haut.
Je suis maintenant violoniste. J'aimerais ça juste l'affirmer. Mais je veux que tu viennes, je niaise pas. Okay. Je pense que c'est un bon public, mais pas un public facile.
Non, je suis très bon public. Honnêtement. Là,
ouais, mais tu dois pas rire.
Écoute, faut vraiment que tu sois mauvais pour que je rie pas.
Pour vrai?
Pour vrai.
Même premier degré, là.
Même premier degré. Écoute.
Tu me dis que t'aimes les jeux de mots, man. Sérieusement, tu me déçois.
J'aime les jeux de mots. J'aime les jokes de pète. Mais j'aime le deuxième puis le troisième niveau. Non, mais pour vrai. Écoute, je suis allé voir Mike Ward il y a plusieurs années. C'est une longue histoire. Puis
c'est une longue histoire.
Non, mais c'est parce que.
J'étais allé voir Mike Ward.
Ouais, mais j'étais un peu en chicane avec lui.
Ah, c'était pas. Okay.
Écoute, je sais pas si. Parce que moi, je suis plus en chicane avec lui.
Mike n'est pas rancunier.
Je sais pas, je le connais pas.
Je le confirme.
Mais j'ai souvent écrit sur lui. En fait, au franc-tireur, j'avais fait une entrevue avec lui parce que c'était le début de l'histoire de, du petit Jérémy. Bon, bref.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Bon.
Fait que
j'ai. Disons plus de détails.
J'avais fait les reproches que j'avais à lui faire, mais la condition pour qu'il vienne, c'est tu vas venir voir mon show. Fait que j'étais allé voir son show et il y avait une joke sur moi, mais j'ai vraiment ri. J'ai vraiment ri. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'est une forme, que ce soit de l'humour à la Pierre Légaré ou à la Mike Ward, le talent, c'est le talent. T'sais. Fait que je suis assez bon public généralement, qu'importe c'est quoi la joke.
Okay.
Ça te surprend, hein?
Non. Non, mais je te niaise pas. Ben, tu sais, je veux dire, on se connaît pas. Même quand tu es arrivé, je me dis, c'est quand la fois qu'on s'est croisé, dans quelles conditions? Ça a quasiment été un bonjour, bonjour.
Je pense que oui. Quelque part dans un cadre de porte, là.
Ouais.
Mais je pense que c'est la première fois que je te parle.
Et ma façon de dire que j'ai pas fait 2 hommes en or, mais ça, c'est correct, on verra ce sujet. Mais tu sais, non, mais. Puis, tu sais, hier, j'étais en show à Hawkesbury, puis tu vas trouver ça long, parce que ça m'a fait penser à toi, parce que un moment donné, je suis parti sur une chire de. Tu sais, on voit tellement qu'on trace déjà très proche de lorsque tu sors du Québec, et tu arrives en Ontario.
Tu sais que j'ai habité à Hawkesbury.
Pour vrai?
J'ai habité à Hawkesbury.
Moi, c'est. J'arrête pas de me.
J'ai habité en banlieue d'Hawkesbury.
Une banlieue d'Hawkesbury?
À L'Orignal.
Mais tu sais que Matthew vient d'Hawkesbury.
OK.
C'est un vrai franco-ontarien là, qui roule ses airs.
Sur Casburn Road.
OK. Ouais. Mes grands-parents sont là aussi.
À L'Orignal?
Oui, à L'Orignal. Moi, c'est Lefebvre, mes parents.
Oui. Où il y a le traversier.
Exact. Drette là, en face.
Tu vois? Je connais l'Est ontarien, j'ai travaillé là.
C'était un babou, ça. C'était beau,
un beau moment. Hein? Ouais.
Si on est capable de faire un tease avec la connexion Hawkesbury et qu'on va chercher 10 000 vues, man, je me pose vraiment des questions sur l'ADN de mon podcast encore à nouveau aussi. T'sais. Mais non, mais j'allais pas dire en joke, c'est là que je vais demander l'asile politique.
Quand ça sera plus vivable ici.
Ce qui est déjà pas loin.
Ouais.
T'sais, parce que moi, je m'en viens, j'habite dans Vieux-Montréal, puis je regarde ce qui se passe au Québec, je me dis. Je ne veux même pas parler des routes parce qu'on a parlé tellement, puis tu vois la différence dès que tu traverses la frontière. Chris, me rends chez nous. Non, oublie le budget pour l'asphalte. On n'a même pas de budget de peinture, sacrement. On n'a pas capable de dessiner ou de pancarte. Je veux pas. Tu sais, j'ai fait une montée de l'aile l'autre fois sur le. Tu sais, 800 millions pour un stade qui n'a pas de locataire. Les gens ont dit, ben, c'est pas vrai, il y a des bandes qui viennent. Ben oui, Slipknot va faire vivre, tu sais. Puis hier, à Hawkesbury, je suis parti sur une chaîne, puis je me dis, on sait que tout ce qui est lobbyisme et corruption maintient. Contrôle le gouvernement, mais chaque politicien se compte des putes, mais j'ai l'impression qu'ailleurs, sont moins des putes de classe avec des talons ou des bas jartelles. J'ai l'impression qu'au Québec, Chris, des fois, on est la pute, est-ce que pas dedans sur le crystal meth qui va te sucer pour 5$?
Écoute, suis ce qui se passe en Ontario, puis ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ici. Il y a bien des affaires qui ne marchent pas. Doug Ford, en Ontario, a ouvert au développement ce qu'on appelle le Green Belt. C'est une sorte de ceinture de verdure. Je pense que c'est autour de Toronto, puis écoute, c'est extrêmement fichi, comme ils disent là-bas. Je pense que le pouvoir, c'est le pouvoir, Max.
Puis on pense que c'est toujours mieux
ailleurs. Il n'y a pas de juridiction où, par miracle, les gens sont au-dessus de tout soupçon.
Puis j'ai vu en studio, dès que j'ai commencé ça, ça a grincé des dents. C'est juste que ce que je trouve désolant, puis ça aussi, j'en ai parlé. T'sais, moi, j'ai connu un peu la fin, j'étais jeune, mais l'air drapeau avec l'expo, les expos. Cette espèce de Montréal modèle de ville en expansion. Et là, j'arrête pas de dire qu'on rivalise avec Buffalo et Cincinnati. Et ça me tue. Tu sais, des fois, je me promène dans des petits bleds américains où on sent une plus grande fierté. Je parle pas du patriotisme américain, bleu, blanc, rouge,
oui, oui.
MAGA, Donald Trump et tout, là, tu sais. Mais je trouve ça triste de voir la fierté québécoise souffrir présentement.
Mais écoute, c'est sûr qu'il y a un marasme. C'est sûr que si tu regardes dans le rétroviseur, tout est toujours plus beau. Tu sais, tu parles de drapeaux. Tu parles des Olympiques. Ils ont rasé des quartiers au complet du jour au lendemain, quasiment à dire aux gens, j'exagère, à pointe du fusil, vous sortez parce qu'on rase. Ils ont fait ça pour faire place à des installations des Jeux Olympiques, à des installations pour le métro. Tu sais, cette époque-là, si tu trouves qu'aujourd'hui c'est corrompu, cette époque-là, tu ferais une ACV. Ouais. Là. Je veux dire, la construction du stade olympique. Quand tu compares la commission Charbonneau à côté de ça...
De la petite gomme?
Je pense que c'était de la petite gomme.
Okay.
Mais tu connais l'histoire. Les camions rentraient avec du béton dans l'enceinte du stade, supposément pour aller porter du béton pour construire le stade. Ils sortaient pleins puis ils allaient construire des chalets dans les Laurentides. Ce genre d'affaires-là.
Ouais, je sais.
Tu comprends? Fais attention, quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est rare que c'était bien, bien mieux.
Non, mais c'est clair, parce que tu sais, ça fait 4 minutes et demie, puis j'ai après 5-6 bulles que tu m'as pété rapidement, puis je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'est un peu le but, parce que moi, j'allais justement dire, à travers mon cynisme, à quoi je m'accroche, à quoi les gens s'accrochent. Parce que, tu sais, quand on t'écoute, si j'allais dire, moi, toi, en tant que grand vulgarisateur, puis quelqu'un qui, évidemment, qui ne mange pas ses mots, puis qui met vraiment le doigt sur les plaies de société en disant « ça fait-tu mal quand je pèse ici? » Il y a une force, il y a certainement une frustration de ne pas voir les choses avancer quand il y a une évidence.
Oui, il y a une frustration de faire toujours la même chronique, de faire toujours la même entrevue. T'sais, sur l'école, je suis tanné de faire la même chronique. Sur la santé, je suis tanné de faire la même entrevue. Je suis tanné d'entendre des partis politiques dans l'opposition dire « quand nous autres, on va être là? » Quand nous autres, on va être là. Vous ne croirez pas à ça, comment vous allez avoir un médecin de famille dans l'année, comment il va y avoir des services dans les écoles. Et là, puis c'est quoi? La stupidité, ce n'est pas de le concrétiser, c'est de le promettre en toute simplicité. Parce que c'est compliqué, c'est complexe. Puis là, la CAQ le voit. Moi, je me souviens de ce que François Legault disait dans l'opposition. Maintenant qu'il est là, ma critique, c'est pas tant que tu n'es pas capable de régler les problèmes, c'est quand tu étais dans l'opposition, tu poussais des solutions simplistes. C'est ça qui me tape ses nerfs. Mais est-ce que je suis tanné? Oui. Cependant, quand tu te compares, tu regardes ce qui se passe dans les écoles en Occident, tu regardes ce qui se passe dans les hôpitaux en Occident. Tu parlais de l'Ontario tantôt. L'Ontario a longtemps été dans les premiers classes au Canada.
Peut-être pas ma bulle d'Augsbury.
Mais ils sont en train de nous rattraper en termes de problèmes. Fait que bref,
moi, j'ai pas envie de le comparer à ça, moi, tu comprends? J'ai envie de comparer au modèle qui fonctionne.
Ouais,
des
raison.
Affaires simplistes un peu. Moi, j'ai passé un peu de temps en Scandinavie, puis tu as le goût de faire, on peut-tu mettre une loupe géante? C'est pas la perfection. Mais tu sais, je veux dire, si mettons un exemple au Québec, on est vraiment le paradis de la prescription de pilules. On a la pilule facile. T'arrives là-bas, man, il commence l'école le matin avec une méditation. Je suis pas en train de dire que, tu sais, on bannit tous les pilules. Il y a des cas de pilules qui sont importants, mais je trouve que... On a de la misère à vouloir visiter option A, B, C, de voir des choses qui marchent ailleurs. Hey, on l'essaye-tu, si bon?
On n'a pas
le
de temps.
Le hockey mineur est un bon exemple. Justin Thibault qui sacque son camp parce qu'il n'est pas capable d'aller avec l'espèce de guerre de petits clans, de si bon, de...
Les guerres de clochers.
Chris, on peut-tu... Oui, il est en 2024 et... J'ai envie de me calmer, c'est pas ça, j'ai fait une pause parce que je repartais sur une cire.
Tu ferais un bon animateur de radio. T'es capable de tenir le micro... Tu es capable de t'indigner. Mais écoute, j'entends tout ce que tu me dis. Au Québec, on manque de temps. On manque de personnel. Les besoins sont immenses. Tu parlais de la surprescription chez les jeunes.
Ouais.
T'sais, encore récemment, il y a une mère qui m'a écrit pour m'expliquer que à distance, la médecin de famille a prescrit des neurostimulants à son enfant. T'sais, tu ne devrais jamais prescrire ça sur un coin de table en 10-15 minutes, ou moins. Ça devrait être le fruit d'une évaluation neuropsychologique. Mais tu sais, voir un neuropsy au public, c'est 2 ans et demi. Ton enfant a le temps de décrocher 6 fois avant d'être vu. Écoute, les besoins sont immenses. Les ressources ne sont pas infinies. Et c'est très mal organisé aussi.
Il y a un manque de... En fait, des fois, je me dis, c'est-tu la volonté politique qui n'est pas là?
Non. C'est...
Parce que moi, il me semble qu'avant ça, on... parce qu'on est loin de l'époque, je... peut-être tu as connu ça, tu sais, quand on était TQ, on a le même âge à peu près. Combien de fois tu as entendu ta mère ou même ta grand-mère dire « Là, on parle pas de politique à la table! » Parce qu'il y avait une passion derrière. Le... C'était pas juste une haine ou justement un découragement, c'était une passion. Puis je me dis, selon moi, avant ça, la politique, c'était une carrière. Et par moment, je sais que j'exagère, mais maintenant, j'ai l'impression que t'aboutis en politique.
Non, non, écoute, honnêtement, là, sur la motivation des individus, j'ai, pour la moyenne des ours qui y vont, là, j'ai peu de doutes. Parce que c'est beaucoup de troubles. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont laisser une carrière intéressante pour faire le saut, peut-être se ramasser dans l'opposition, ce qui est le chemin de croix. Peut-être être au gouvernement, mais là, vas-tu avoir un ministère? Si tu es Christian Dubé, c'est clair que tu vas avoir un ministère. Si tu es Bernard Drainville, c'est clair que tu vas avoir un ministère. Si tu es Youri Chassin, qui était une tête pensante de la droite économique, tu te ramasses député de Saint-Jérôme, peut-être qu'il va te dire publiquement que c'est vraiment le fun, mais en son fort intérieur, il aimerait ça avoir un impact puis être ministre. Sur leur motivation, j'ai pas de problème. Mais les machines sont tellement grosses, les problèmes sont tellement immenses, c'est pas facile à régler. Regarde les Drainville. Ouais. Drainville, là, combien d'entrevues il a fait sur l'école? Il en a fait autant que j'en ai fait. Il connaît les constats, il sait c'est quoi qu'il faut faire. Il arrive là, il n'est pas capable de savoir combien on manque de profs dans le centre de service scolaire Y, combien il y a de décrocheurs dans le centre de service scolaire Z. Fait que tu commences par ça. Fait que après ça, bonne chance pour trouver des remèdes quand tu n'es même pas capable d'avoir les données pour faire le diagnostic.
Parce que moi, tu dis, on parlait de position tantôt. Moi, mon fantasme, si j'étais justement un politicien, c'est du bon côté, ben, du côté du pouvoir, puis d'avoir l'opposition qui me dit « On croit que plat, parfait. » On n'avait pas vu ça de même. À vous une solution, juste pour entendre le silence qui suit. Parce que déjà, ça le dit, opposition, ta job est claire, t'opposer. Je veux dire, tu comprends-tu?
Oui.
Et là, je me dis, parce que Christ, je crois un meilleur monde, honnêtement. Je veux dire, des fois, j'ai encore cette naïveté-là de « All you need is love, come on! »
Mais Max, tu sais, regarde, je vais essayer de rétablir
mon espoir en l'humanité.
Ton espoir en l'humanité. Tu sais, moi, je chiale beaucoup parce que ma job, c'est pas de dire « Hey, l'avion s'est posé, nice job. » Ma job,
toi,
c'est
t'as jamais applaudi en intéressant dans le Sud. Hein?
Non, non.
Merci.
Mais puis en passant, c'est pas juste québécois. Hein?
Non.
Mais ma job, c'est de dire « Coudonc, comment ça se fait qu'il y a eu un crash? Comment ça se fait que l'avion s'est posé en perdant une roue? C'est comme ça que tu améliores les choses. » Ceci étant dit, je prends un pas de recul. Tu parles de la Scandinavie. Tout est beau en Scandinavie. Le modèle scandinave, c'est extraordinaire. C'est vrai. Mais quand on se compare à l'échelle du monde, ici, on est encore parmi les premiers de classe.
Oui, mais j'aime mieux qu'on regarde vers le haut.
Tu as raison. Mais pour ne pas te décourager de temps en temps, quand tu es seul avec toi-même en train de fixer le plafond un soir très tard, tu peux te dire, regarde, on est quand même mieux que dans bien des régions du monde dont les citoyens veulent venir habiter ici aussi, by the way.
Ah, mais oui!
Mais ceci étant dit, ça occupe 10 % de mon analyse. Tu sais, des fois, j'écris des chroniques, puis il y a des gens en politique qui m'écrivent, qui me disent « Ouais, mais là, tu peux-tu dire des fois que ça va bien ou tu peux-tu dire les bons coups qu'on fait? » Puis je réponds souvent la même affaire, c'est « Les bons coups que tu fais, tu as toute une armée de relations publiques, tu as les ressources de l'État à ta disposition pour dire les bons coups que tu fais. » Nous autres, les journalistes, on est considérablement en déficit de moyens comparé à vous autres. Donc, on va se concentrer sur ce qui ne marche pas. Parce que ça, il n'y a personne qui va te le dire.
Il y a cette pression-là, des fois, aussi, de souligner, mais pas cette pression, mais ce besoin, en fait, de souligner les bons coups aussi, tu sais.
Oui, oui, mais ma façon de
même
faire...
Même pour ta tête, en fait, en tant que journaliste.
Non, absolument. Puis des fois, je regarde le line-up de l'émission à radio, puis je vais dire, hey, OK, ça, c'est dry, là. Vraiment, là, trouve-moi du fun. Trouve-moi un troupeau...
Tu peux sourire les trois prochaines heures au moins une fois.
Trouve-moi un troupeau de vaches qui s'est enfui de son enclos. Trouve-moi quelque chose. Fait que moi, les chroniques que je vais faire, qui sont plus dans le positif, c'est pas nécessairement pour dire, ah, finalement, regardez, ça, ce bord-là, cet aspect-là de l'action gouvernementale, c'était bon. Ça arrive que je le fasse, mais je vais y aller avec une histoire qui est feel good. Ça existe, il y en a. Et il y a un marché pour ça, parce qu'à toutes les fois que j'en fais... Les gens sont comme, ben oui. Ah, merci. Merci de mettre du soleil dans ma journée.
Exactement.
Parce que les nouvelles, Max, tu sais, je suis là-dedans, je suis dans la machine. j'aime ça, j'en mange. Je trouve que c'est important. Mais ça peut être, tu sais, disons, là, le matin, tu fais le lunch de ton enfant. Le soir, tu reviens. Faut donner le bain, etc. Puis là, t'auras peut-être une demi-heure pour regarder Netflix. Plonger dans les nouvelles, ça peut être déprimant dans ta vie de fou. Puis ça, ouais, je le comprends.
Mais c'est l'autre, tu parles de Netflix parce que un moment donné, on va y aller là-dedans parce que je vais essayer de découvrir un autre côté. Mais je vais vraiment profiter du fait que tu sois là pour. Parce que si depuis le temps que tu es là, tu as vu la transformation des médias. Ouais. Si je regarde ce qui se passe à la veille des élections américaines, je trouve ça juste complètement épeurant. Un pays divisé par souvent les sources, la source d'information qui est plus quasiment sectique que.
Totalement.
Tu sais, je veux dire, encore ça, je vais nous pitcher ça. Oui, il y a LCN, on peut dire ce qu'on veut sur LCN. Tu sais, le centre, la gauche, la droite. Tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'au Québec, t'as le centre, t'as la gauche, puis t'as la droite. Tu sais, il n'y a pas de grand écart non plus, mais pas comme on voit ailleurs.
Le centre au Québec, il est gros.
Exact. Ouais. Et en même temps, tu sais, évidemment, tu sais, quand je regarde ce qui passe aux States, si tu écoutes Fox, tu n'écoutes que Fox. J'ai l'impression que. Puis je suis pas en train. Puis en même temps, puis l'extrême gauche s'en vient des parents aussi, à quelque part, on s'entend, là, tu sais. Mais je me dis, ce qui est triste, par contre, c'est que d'avoir un média contrôlé dans ce qu'on n'aurait jamais pensé voir en Amérique, en fait, en Occident, comme on voyait à l'ancienne, dans l'URSS, comme quand t'étais cul. Mais pas juste ça aussi, avec l'intelligence artificielle, tu sais, d'être capable de se battre dans un monde où on peut inventer n'importe quoi, c'est quoi le défi des médias à travers ça? Qu'est-ce que je trouve ça pas pire comme question?
C'est une très bonne question.
Hein?
Si j'avais la réponse...
J'ai des moments de fierté comme ça, Pat, des fois, où ce que je me dis, c'est pas pire.
Si j'avais la réponse, je serais millionnaire. Les gens se construisent des bulles. Les gens voient tout en termes d'identité maintenant. Tu sais, aux États-Unis, puis c'est un peu le cas ici, aux États-Unis, tu peux être un républicain puis pas haïr les démocrates et vice-versa. Mais il y a eu une polarisation. Puis tu sais, tantôt, tu as dit « Ah, l'extrême-gauche est aussi pire. » Regarde, il y a des époques dans l'histoire où l'extrême-gauche a été absolument menaçante. Il y a des pays qui ont été...
Ben, Moscou 1918, tu sais.
Mais exactement. Tu vois, cette extrême-gauche-là a existé. Il y a eu des mouvements de guérilla en Europe, en Amérique du Sud, qui étaient d'extrême gauche, qui tuaient du monde, etc. Aujourd'hui, moi, la fausse équivalence qui est « Ah, l'extrême droite, c'est aussi pire que l'extrême droite. L'extrême droite, c'est aussi pire que l'extrême gauche. Les woke, c'est comme les trumpistes. » Attends une minute. Moi, les woke ont beau m'énerver, OK? L'hyper-progressisme, pour moi, va tuer le progressisme. Ceci étant dit...
J'adore ça comme France.
Ceci étant dit... les woke sont pas au pouvoir. T'sais, tu peux dire tant que tu veux que Trudeau est woke, OK, mais ça demeure, somme toute, un gouvernement libéral classique à la Trudeau père qui va dépenser, qui est dans les grands enjeux, puis pas dans le portefeuille des gens, pas dans le quotidien des gens. Mais quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, je suis étonné qu'on dise pas que c'est de l'extrême droite. Ce qui se passe là-bas. Vient. Non, mais pas ce qui s'en vient. Maintenant. Mais bon, Trump, c'est un fasciste.
Non, c'est clair. J'ai convaincu des gens, justement, j'écoutais des reportages. Je pense que c'était des Daily Show, mais fait rien, tu sais. C'est de gens qui disent, oui, s'il va être dictateur, moi, je suis capable de vivre
bien
avec
sûr.
Ça.
Mais quand je te parle d'identité, la politique de l'identité, ta gang est devenue ta tribu. Puis là, tu tombes dans le tribalisme. Fait que si c'est ta tribu contre l'autre tribu, forcément, dans une logique tribale, il y a une tribu qui doit mourir. Quand ça fait 25 ans et plus que tu as un régime médiatique aux États-Unis où, je veux dire, Fox News et compagnie vont dépeindre une société qui n'existe pas, une société où l'Amérique est assiégée, où les immigrants vont venir nous violer dans nos lits, dans toutes les villes des États-Unis, où les pauvres sont un problème à éliminer même quand ils sont nés aux États-Unis, tu radicalises du monde. Tu sais, regarde.
Mais juste une parenthèse, par exemple, parce qu'en plus, ce qui vient me chercher, c'est les atrocités qui sortent de la bouche à quelqu'un comme Donald Trump de
il a dit,
m'a donné sa 5e avenue qui n'est pas reprise, non, tu comprends?
Mais récemment, t'sais? Il a dit des migrants que ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des personnes. Tu sais, il y a un problème aux États-Unis et ailleurs de plus en plus avec le fait que les frontières sont poreuses, les gens rentrent dans des pays de façon irrégulière. Je ne suis pas contre l'immigration, je ne suis pas contre les immigrants. Mais si tu penses que ça n'a pas d'effet sur l'imaginaire du public, c'en a un. Puis ici au Canada, si tu penses que une immigration peu contrôlée n'a pas d'effet sur l'accès aux garderies, l'accès aux écoles, l'accès au logement, et que, en fait, la réponse, c'est oui, c'est un problème, puis que ça n'aura pas d'effet sur la psyché et les opinions politiques des gens, tu vis dans un monde qui n'est pas le mien. Je reviens aux États-Unis, ce qui se passe là avec le trumpisme, je veux dire, quand ça arrivait en Europe, quand tu avais des petits partis d'extrême droite, on disait ce sont des partis d'extrême droite. Là, il y a toutes sortes d'euphémismes qui sont utilisés pour ne pas dire que Trump est d'extrême droite. C'est un fasciste. Quand tu en appelles à la rue, si tu ne gagnes pas aux urnes, c'est du fascisme. Quand tu dis à un groupe d'extrême droite, les Proud Boys, avant la dernière élection, tenez-vous prêts, c'est du fascisme. Quand tu es toujours en train de trouver des ennemis du peuple, c'est du fascisme. Mais parce que c'est les États-Unis, puis les États-Unis ont été importants pour un exemple démocratique dans le monde, on n'ose pas le dire.
Tu sais, c'est là où je me souviens quand j'étais TQ, ou primaire, puis là, t'avais ton livre d'histoire, puis tu sais, ça commençait avec l'Empire grec, puis après ça, l'Empire romain. Puis ça me fascinait toujours de voir ces grandes frontières-là, puis surtout la répandue, puis tu dis toujours comment que ça s'est effondré. Et j'ai l'impression de le vivre live, tu sais, au sud de nous autres, cet empire américain-là dont on parle, qui est en train de... Et dis-moi ce que je... Puis je sais, juste le fait qu'on en parle, regarde bien les messages que je vais recevoir, genre, à ce gang de gauchistes, hey Trump, blablabla. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis que ces gens-là ont trouvé la bonne façon de mettre, encore une fois, je vais alimenter ta haine en te faisant un écran de fumée pour prendre. Écoute-moi, je traverse souvent les États-Unis, puis je regarde, quand je parle avec du monde, c'est toujours touché de parler de politique, puis surtout genre Caroline du Sud. Mm-hmm. Bonne chance. Mm-hmm. Je l'ai essayé. Doucement. En choisissant très bien mes mots. Parce qu'en général aussi, ils sont armés. Fait que. Puis je voyais du monde dans des astis de cabane scrap, char rouillé, me dire comment ta vie est meilleure quand lui était là. Parce qu'il n'a rien fait pendant ces 4 ans pour t'aider. Ils ne sont pas capables de voir. Je comprends. Puis je me dis, quel être humain faut que tu sois pour être capable d'aller peser sur le malheur des gens pour te rendre toi? Tu comprends ce que je veux dire? Puis Fox, c'est ça. Comment qu'un journaliste de Fox dort le soir? Ben, mon chèque de paye est assez de te consoler?
Les journalistes de Fox. Règle générale, font de ce que je vois, c'est pas juste mon opinion, là, ce que j'ai entendu, là, font de la bonne job. C'est le commentariat de Fox, quand tu tombes en heure de grande écoute en soirée, qui te dépeint une société qui n'existe pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu parles avec des Américains, le phénomène existe aux États-Unis depuis longtemps. T'sais. C'est-à-dire que les gens qui sont très pauvres vont voter beaucoup pour le parti qui veut donner encore plus de coupures d'impôts aux milliardaires, c'est le Parti républicain. Le parti qui a fait la guerre à l'assurance santé publique, le moignon d'assurance santé publique qui a été créé par l'administration d'Obama.
Moignon, il parlait de santé.
Non, mais tu sais, quand tu le compares avec ce qu'il y a ailleurs dans le monde, il y a des gens qui sont contre ça, ils sont les premiers à en bénéficier. Il y a quelque chose dans l'air aux États-Unis qui remonte à bien avant Trump, où la culture a convaincu les gens que s'ils sont pauvres, c'est de leur crise de faute. Puis c'est une faille morale. Puis débrouille-toi. Puis il y a ce paradoxe-là. Les gens les plus mal pris vont voter pour le parti qui ne veut pas aider les mal pris. Je ne sais pas à quoi ça tient. Je ne suis pas américain.
Parce que dans ta tête, tu n'es pas un mal pris. Tu penses à une affaire d'orgueil?
Je pense qu'il y a quelque chose de racial aussi. C'est comme... Parce que... Tu sais, ça n'a pas commencé avec Trump aux États-Unis. Ça a commencé bien avant ça. Tu connais l'expression « dog whistling » ?
Oui.
Bon, le sifflet à chien. Il y a des sifflets à chien, ça existe. Tu siffles, tout le monde ne l'entend pas, le chien va l'entendre. Le « dog whistling », les républicains étaient très bons là-dedans, c'est tu dis quelque chose qui a l'air de vouloir dire « A », mais ça veut dire « B ». Puis le « A », c'était quelque chose de tout à fait respectable. « States' rights », les droits des États. Mais en dessous, ce que ça veut dire, chez ceux qui comprennent le sifflet à chien, c'est « Ouais, les Noirs prennent beaucoup de place, puis les minorités prennent beaucoup de place. » Puis il est temps qu'on leur tape dessus.
Mais tu vois, ce qui est ironique, c'est présentement quand tu regardes les chiffres, les Noirs sont en train d'abandonner. Les Noirs et les immigrants sont en train d'abandonner les démocrates.
Oui.
Écoute, c'est fucking fascinant, ça.
Mais on verra à l'élection ce qui va se passer. Tu sais, quand tu regardes les dernières élections, la présidentielle, les midterms, ce qui est arrivé, Même les midterms de Trump quand il était président, les sondages donnaient toujours les républicains un peu plus haut, puis oups, ils n'ont pas performé de la même façon. On verra ce qui va arriver après une campagne. Je trouve pas que Biden est un bon candidat.
Non.
Puis c'est complexe. Tout le monde, on est ici, on regarde ça. Les gens ont toutes sortes de raisons pour voter pour qui ils votent, mais on verra c'est quoi le score des courses au mois de novembre.
Mais c'est ça aussi que je trouve un peu que la relève politique, c'est ce qui me fait un peu... Autant au Québec qu'un peu partout à travers le monde, on est encore en train d'élire des vieux bonhommes. Bon, toi puis moi, je veux dire, on ne rajeunit pas non plus. Ouais. J'ai 54, fait dans pas long, on va être un de ces vieux bonhommes-là, mais je me suis demandé...
Mais t'es jeune en politique.
Oui. Puis je me souviens de déjeuner avec Martin Petit un moment donné. Même Bolduc sur Delorimier. Les bons déjeuners gras, tout. Puis il disait que nous autres, génération X... Le cynisme un peu politique a beaucoup commencé par notre génération, je dirais. Puis il disait, la gaffe qu'on a faite, c'est pas une gaffe, mais on s'est complètement désintéressé de la politique. Notre génération n'est pas hyper bien représentée, je trouve, non, au niveau politique. Comme la, je check bien le futur.
Mais t'as,
parce que les jeunes ne sont pas plus intéressés.
T'as un changement dans les municipalités, où t'as plusieurs jeunes maires, mairesses qui arrivent. Donc ça, t'as peut-être un changement, parce que je pense pas que Catherine, Fournier va rester mairesse de Longueuil toute sa vie. T'sais. À un moment donné, elle va vouloir aller plus haut. Je pense pas que Bruno Marchand va vouloir rester maire de Québec toute sa vie, ou en fait, quand il ne le sera plus, il va être sollicité. Mais tu sais, ce que tu décris là aussi, c'est le fait que les vieux votent et les jeunes ne votent pas. J'exagère, mais les jeunes votent moins. Donc, Québec solidaire est très populaire chez les jeunes, mais les jeunes ne sortent pas voter en masse comme les vieux vont voter. Donc, un gouvernement solidaire, dans l'immédiat, c'est improbable.
Tu sais, ouais. Puis, en fait, moi, quand ma fille m'annonce qu'elle vote, je sais pas, ça vient chercher une espèce de fierté en moi. Parce que je dis, le seul droit que tu as de pouvoir chialer, c'est si tu votes. Sinon, ferme ta gueule. Je sais que c'est très de base ce que je viens de dire, là. Tu sais, c'est assez 101.
Ouais.
C'est comme une version d'opinion politique. C'est comme la version gag de pet d'un commentaire politique. C'est vraiment...
Écoute, mon point de vue là-dessus, en démocratie, c'est pas juste le vote qui compte. Puis, on pense souvent que la démocratie, c'est voter. Les Russes viennent de voter, là.
Ben ouais.
Il y a pas de démocratie.
Non, non.
Qu'est-ce qui manque en Russie? Il manque des contre-pouvoirs. La démocratie, oui, c'est des élections libres, où chacun peut se présenter, c'est vrai. Puis chacun peut organiser un parti politique, pas de problème.
Ça dépend à quel point tu tiens ton espérance de vie.
Ah, en Russie, oui, non, exactement, non.
C'est juste ça.
D'abord,
qui,
c'est un pays où l'espérance de vie est assez basse.
J'ai envie de vivre très longtemps, moi, là, tu sais.
En tout cas, tu vis intensément quand tu t'opposes à Poutine. Mais la démocratie, moi, je dis, tu sais, cette phrase-là, si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de chialer. Ouais, OK. Moi, je trouve que ça fait l'économie
de... C'est de base, je le sais.
Non, mais qui sait que tu es allé voter ou pas? Tu comprends? Fait que tu peux dire... C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Tu peux participer autrement. La démocratie, ce qu'on oublie souvent, c'est que ce sont des contre-pouvoirs. C'est d'avoir des organismes, des leviers qui vont dire au pouvoir, « Hey, vous n'êtes pas correct là-dessus. » Puis ça, quand on commence à s'éloigner de ça, je ne te dis pas que tu tombes dans la dictature, mais on oublie que la démocratie, c'est encore... C'est aussi ça et c'est surtout ça. Hey, je m'excuse, je suis devenu soudainement très, très sérieux.
Oui, plus qu'au début. Oui,
je sais. Je vais essayer de te rentrer une joke de pète.
Non, mais en plus, non, mais je veux aussi rassurer les gens, il n'y a pas d'examen ni de test à la fin du podcast.
Il y en a, mais vous avez droit à vos notes.
Ah, oui, évidemment. Mais tu sais, c'est une autre affaire. C'est là parce que, tu sais, comme je t'ai dit au début du podcast, j'ai changé le début dans ma tête au moins une dizaine de fois. T'sais. Puis c'est là, puis le matin... J'avais un jean jacket que j'ai enlevé parce que je me disais, OK, là, on commence à se ressembler. Même toi, tu t'es changé, t'avais un chandail vert et tout. Mais puis, écoute, on s'en va comment ailleurs, mais je sais pas pourquoi ces temps-ci, c'est ça vieillir un peu, mais j'ai une nostalgie de ma génération. Je suis pas en crise de cinquantaine, non, je m'ennuie de la vingtaine, mais tu sais, Gen X se fait tellement chier dessus. En fait, un, ils appellent des boomers. Moi, ma fille, ça veut me faire chier, puis elle le sait.
Bien sûr.
Toi, le boomer, ça me met en tabarnak.
Boomer comme insulte chez les Z puis les milléniaux.
Ah, c'est la première.
En fait, c'est juste que t'es vieux.
C'est ce que je leur dis. Arrête donc de chier ces boomers, parce que si c'était pas des boomers, OK, ton cul serait encore assis dans une église le dimanche après-midi. Ça a été premier vraiment à briser le moule de bain des affaires.
Oui.
Puis après ça, nous autres, on est arrivés. Tout ce qu'on a fait, c'est être en tabarnak pendant un bout. Il y en a qui ont arrêté avant, comme toi. Moi, j'en ai fait une carrière, tu sais.
Mais t'es nostalgique de quoi?
Je le sais pas. Il y avait quelque chose de beau dans cette génération-là, des fois, que je trouve qu'il y a, tu sais, on est, tu sais, démographiquement, on est la moins nombreuse aussi en Amérique du Nord. Ouais. J'aime beaucoup. Ce que j'aime du X, le X, c'est un vrai. C'est très symbolique parce qu'on était la première génération à vivre la garde partagée. Moi, je me souviens, quand j'étais au primaire.
À grande échelle, là, ouais.
Ouais, ouais. Ouais, écoute, ouais. On était deux, trois, là.
Oui, puis c'est pour ça que nos parents étaient si mauvais à faire ça. Il n'y avait pas de modèle avant.
Non, non, non. C'est arrivé subitement, là.
Mon Dieu, oui.
Tu comprends? Tu sais, moi, quand ils disent, oh, vous autres, vous l'avez eu facile. Moi, c'est une affaire qui me fait chier aussi. Surtout, tu sais, quand on parle du classique, tu sais, homme blanc, hétéro de 40-50 ans. Chris, non, mais c'est comme si on était en train de dire que tous les hommes blancs n'ont jamais eu ça difficile. Hey. Moi, 20-30, j'en ai chié en Chris. Par ma faute, je me suis pas aidé, évidemment. Là, on sait pourquoi, tu comprends, tu sais. Mais je me souviens que. T'sais, on est arrivé dans un monde des X où nos parents, grands-parents avaient cette stabilité-là de. Parce que c'est la vieille mentalité de trouve-toi un job, que tu l'aimes ou pas, ferme ta gueule, ta garde, marie-toi, ferme ta gueule, aide des enfants, pogne ta retraite, puis on te souhaite de crever pas trop tard, t'sais, pas trop vite. Nous, on a amené ça ailleurs.
Écoute, quand j'ai dit à mon père que je lâchais une job au journal Le Droit à Ottawa, où j'avais une permanence, pour m'en aller surnuméraire pour l'été 99 au journal de Montréal. C'est comme si j'y avais annoncé que finalement j'étais gay, tu sais. C'est pas qu'il me rejetait, c'est qu'il comprenait pas. C'est, hein? Mais t'as une permanence? Oui. T'as comme un plan d'assurance santé? Oui. Et puis t'as du fonds de pension. Ça faisait un an et demi que j'étais là. Oui. Tu t'en vas au Journal de Montréal, puis t'as rien de ça. Puis ils peuvent te slacker à la fin de l'été. Ils peuvent me slacker pendant l'été. Là, il était comme. Je comprenais pas.
Puis juste pour tout tester, mais mon père a travaillé... mon boss une fois par semaine, voir si vraiment il tient à moi. Puis...
Mais mon père est rentré à Ville de Laval à 16-17 ans et il en est sorti à 50. Tu comprends?
Ouais.
Ça a été son seul employeur toute sa vie. Là. C'est une autre mentalité. Puis il disait à ma mère, ben je vais le faire rentrer à Ville. Tu sais. Il y a eu quelque chose avec notre génération qui a, je pense, mieux dealé avec l'incertitude. Mais
par obligation, un peu, à quelque part.
Par obligation.
Aussi, parce que les bonnes jobs, t'as pris. Il faut qu'on se crée nos entreprises. Je ne suis pas en train de dire qu'on est responsable des entrepreneurs indépendants, mais on a quand même parti la vague.
Oui, oui, oui. Le travail autonome, etc. Ça avait toujours existé, mais là, c'est devenu pas une norme, mais c'est devenu une masse critique dans la société. T'sais.
Donc, merci les jeunes.
Merci les jeunes.
Chris.
Non, mais c'est là que tu vois que t'es vieux, quand tu commences à parler des jeunes en ces termes-là.
Oui, mais en fait, parce que ça me fait rien, parce que j'ai reçu, je pense maintenant à Vanessa Destiné, puis ça a vraiment été, on s'est ostiné, mais avec un sourire, puis elle, pour me piquer, elle m'appelait Boomer aussi, mais il y a quelque chose de frustrant et de beau de voir que chaque génération a la même arrogance qui est belle, la même naïveté qu'on va tout changer avant de tomber dans la même crise de moule dans laquelle on tombe toutes.
T'as raison, mais écoute, hier, dans la presse, pourquoi on est autour de la mi-mars, là.
Ouais.
Je sais pas quand tu vas passer le podcast, là, mais moi comment je te dirais? J'ai des réserves dans les combats de génération, OK? La génération qui m'inquiète depuis peu, c'est la génération née après 96. Ceux qui n'ont connu que l'Internet. Ceux qui n'ont connu que l'Internet haute vitesse, Wi-Fi, dans leur téléphone, dans leur poche, avec des réseaux dits sociaux. Ça, ce que les études commencent à montrer, c'est à quel point ça a fucké le développement de ces jeunes-là. Parce qu'en masse, ils ont cessé d'avoir des interactions. Les principales interactions ont cessé d'être en personne, c'est devenu virtuel. Ouais. C'est pas bon pour le développement humain. Tu vois, ça, je pense, c'est une conversation qu'on va commencer à avoir là, de façon beaucoup plus importante, nombreuse. Dans les prochaines années.
C'est drôle parce qu'il y avait un article récemment qui disait qu'il y avait une étude sur 20 ans de l'Association des pédiatres du Québec, un affaire de même. Tu sais, j'aimerais ça le trouver, qui disait que oui, finalement, c'est bon pour les enfants de faire des activités dangereuses,
La Société de pédiatrie du Canada a dit, écoutez, le jeu risqué, il faut le permettre.
Mais pas on a grandi là-dedans, nous autres.
Non.
Si t'avais pas de bobo, t'en sais-tu du mercurochrome? Comment on en ramène le mercurochrome?
Max.
C'est une boute de plastique sur le genou, ça faisait mal en crisse, mais ça.
Oui, mais non. Parce que. Oui, non, mais.
Tu Oui. Tu peux pas être contre le mercure.
Check bien. Non, puis le mercurochrome, c'était quoi l'autre patente? Ma mère mettait du beurre, c'est brûlure. Oui. Ouais,
oui. Moi, c'était de l'eau de Javel.
Arc.
Non, mais il paraît que ça enlevait la brûlure.
Ouais.
On était des cobayes d'une certaine façon.
Mais toi puis moi, on a grandi au début de cette époque-là où les parents avaient bien peur de nous laisser jouer dehors, même si on le faisait. Ça a commencé à ce moment-là. Fin des années 70, début des années 80. Les parents, là, tu sais, les histoires de kidnapping, les histoires de... Aujourd'hui...
Moi, j'avais, avant de partir, j'avais la liste d'avertissements, là.
Mais exactement, là, tu sais, prends pas de bonbons d'un étranger, etc. Ouais. Mais bref, on a été le début de cette génération-là, la génération de tes parents, probablement parce qu'il y avait plus d'enfants aussi dans la famille. Si t'en perdais un, c'était un petit peu moins grave.
Ouais, la moyenne n'était pas payée.
Tu comprends-tu? S'il y en a un qui s'est écrasé par le train, ben, on a 8 autres.
Ouais.
Mais,
on va bien finir par se souvenir de tous leurs noms.
Mais je te le dis, il y a bien des affaires aujourd'hui, je pense, qui s'expliquent dans la société, chez les jeunes générations. Troubles anxieux, troubles dépressifs.
Ouais.
Incapacité.
On t'a plus responsable pour ça, Pat,
non,
selon moi.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Attends une minute. L'enfant roi, l'enfant woke, donc on pointe du doigt. C'est quand même nous autres. Moi, ça me fait rire quand je vois des parents réprimander leurs enfants. Lâche ton sel pendant qu'ils l'ont dans les mains.
Ceci étant dit, oui, je comprends, mais tu parlais avec ma blonde tantôt d'environnement avant qu'on commence.
Ouais.
Tu sais, l'environnement, là, tu penses-tu qu'on va sauver le climat avec des décisions individuelles?
Non, on est rendu à la méthode scientifique, ça,
parfait.
C'est clair.
On est rendu au collectif. Il n'y a pas de problème de société collectif qui ont des réponses individuelles. Fait que oui, tu peux dire à tes enfants, vous n'aurez pas de cellulaire. C'est parfait, c'est correct, ça se peut que ça marche, mais on arrive par rapport à l'hygiène numérique, je pense, à une époque où il va falloir des solutions collectives. Aux États-Unis, les géants du web, les Facebook et autres, s'en vont au Congrès, là, ils se font caler, puis ils se font dire « viens témoigner ». On commence à avoir cette prise de conscience-là à propos des jeunes, des ados, des enfants. C'est une bonne idée qu'un enfant de 9 ans ait un téléphone cellulaire? Est-ce que c'est une bonne idée que des enfants de 5 ans soient sur Snapchat? Moi, récemment, là, j'ai eu des témoignages, là, une prof qui m'explique que dans sa classe de 5e, il y a des chicanes et des choses qui se disent entre élèves dans le virtuel, sur Snapchat, qui débordent dans le réel, comme chez les grands. Nous autres, les grands, tout moi, là, on peut faire la part des choses. Nous autres, ils grandissent
ce que
là-dedans.
Dire.
Fait que ça, ce n'est pas affecté. Une décision de parents. Ça, c'est une décision d'État qui dit, si vous avez un enfant de 12 ans dont vous n'avez pas vérifié l'identité, qui est sur Snapchat, c'est 1 million d'amende. Ça va changer les affaires.
Déjà là, ton enfant de 5 ans. Et c'est ça que je trouve un peu déplorable. Tu es obligé de dire à des parents que c'est pas normal que ton enfant soit soumis, que soit bombardé à autant de...
Une fois que ça s'est dit, c'est un problème qui touche tout le monde. Donc, quand c'est un problème collectif, ça prend des solutions collectives. Est-ce que c'est inutile de faire ton recyclage? Est-ce que c'est inutile de pas aller en Europe en avion? Est-ce que c'est inutile d'avoir un char électrique? Etc., etc. Non.
Là, j'espère que non. Je fais 3-6 mois. Là, commence pas à dire, tiens.
Mais... Bref, sur les générations, ce que je veux te dire, c'est les jeunes générations ont vécu leur enfance dans des univers virtuels qui fuck le réel.
Puis aussi dans ce que j'appelle les papiers-bulles. T'sais, moi, quand j'entends ma gang dire « Dans notre temps, on jouait dehors 12 heures par jour, nos parents, puis hein, les jeunes aujourd'hui, ben, crisse-les dehors, ton kid!
Okay.
Enlève-y son sel, rouvre la porte, dis, t'en reviens pas avant 4 heures!
» Puis sais-tu quoi? Quand tu regardes les statistiques de jouer dehors, avec les enfants, de temps passé avec les amis, ils sont tous sur les réseaux sociaux. J'exagère encore une fois, pour simplifier. Mais tu ouvres la porte, tu l'envoies dehors, y en as-tu d'autres, kid? C'est pas sûr. Sont sur Snapchat,
mais non, mais
sont sur Instagram.
Oui.
Voilà.
Combien de fois j'ai pris des photos de ma fille avec ses chums au restaurant, les trois sur leur selle?
Max, je te le dis, un jour, là, dans 15 ans, là, on va regarder en arrière, puis on va dire, hey, 2012, là, on leur donnait des téléphones comme ça. Comme on est étonné aujourd'hui de nos grands-parents qui disent « Quand mon père voulait me récompenser, il me donnait à 13 ans une cigarette. » Ce qui a existé.
Ouais.
Fumer en char
bon
avec...
vieux temps.
Fumer en char avec les fenêtres fermées.
À 13 ans.
Non, mais tu sais,
ouais.
Moi, je suis fasciné par ça. Quels seront les comportements dans 15-20 ans qu'on a aujourd'hui qui nous semblent parfaitement normaux où on va regarder ça avec horreur? Ça, les réseaux sociaux pour des kids, là, je pense que ça va faire partie de cette horreur-là qu'on va avoir.
Parce que ce qui est souvent peur dans ces affaires-là, dans tout ce qui est grand... Encore une fois, on va frapper un mur d'une façon grave avant de rebondir et de prendre conscience. On est un peu là, tu sais, et tu le dis très bien. T'sais, moi, je veux dire, en tant que personne, personnalité publique dans la cinquantaine, qui a travaillé énormément sur lui, quelqu'un qui m'écrit un message de merde, on ne fera pas semblant que ça me fait pas chier, puis j'ai envie d'y arracher la tête puis chier dans la gueule, là, tu comprends-tu, là, tu sais, là, excusez-moi l'expression et l'image, mais ça faisait beaucoup de bien, c'était thérapeutique. Mon psy me dit de non, mais joke à part. Fait qu'imagine quand tu as 12, 13 ans, comment l'impact ça peut avoir sur toi, tu sais.
Quand tu as notre âge, ou même 40 ans, tu as grandi à une époque où tu n'avais pas l'Internet dans ta poche, comme aujourd'hui. Puis, tu sais, quand je te dis ça fuck leur développement, leur cerveau, c'est pas l'opinion de Pat Lagacé, là.
Non, c'est prouvé.
Il y a
là.
Un mur d'études qui montre que, à partir de 2012, là, paf, il y a quelque chose qui s'est passé. Pas juste aux États-Unis, quoique aux États-Unis, on a beaucoup, beaucoup de données, non, parce que c'est
mondial,
un pays qui a...
On est d'accord, c'est mondial.
Mais partout où tu avais des pays développés qui ont adopté l'Internet, qui ont adopté le iPhone, etc., les tablettes, les kids ont commencé à avoir des problèmes. Des troubles anxieux, des idées suicidaires, des visites à l'urgence parce qu'ils se sont fait mal, etc., etc., de la dépression... Tu regardes ça.
L'intimidation sur le web, c'est dur à gérer. Nous autres, on se battait dans le cours d'école. Ça se fait que tu manges une volée, mais c'était réglé.
Quand tu pars de l'école, c'est fini. Aujourd'hui, l'école te poursuit chez vous. Ça te fuck le cerveau d'un enfant. Tu sais, toi, je reviens à ton message de haine que tu as eu. Ton cerveau a été calibré d'une autre façon.
Ouais, c'est génial. C'est pas la fin du monde. Pendant une couple de minutes, mais c'est ça. On sait que ça passe.
Aujourd'hui.
Si j'avais 13 ans, ça pourrait fucker ma semaine.
Il y a une prof qui m'a écrit pour me raconter que c'est ça. Il y a un psychodrame dans sa classe. Il y a de l'intimidation à travers un réseau social. Les kids sont tous là-dessus. Ça déborde dans la classe. Ils se disaient des choses à propos de kids que les kids ne se diraient jamais en public, en personne. Mais ça a un effet sur l'estime de soi, sur l'idée de ta valeur, sur comment tu interagis avec le monde. Ils sont en cinquième année. Ils sont en cinquième année.
Non, je sais, mais c'est comme t'sais, on parle des adultes. Tu sais, les mêmes mange-marques d'envoyer chier sur Facebook vont souvent être les premiers qui vont se mettre en ligne pour une photo après ton show. Je te niaise pas.
S'ils vont à ton show.
Ouais, mais Joe, si t'es croise, c'est clair que ce que tu m'as dit, si je suis devant toi, tu me le dis pas. C'est officiel.
95 % du temps.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. On est d'accord avec ça. Ouais. Fait que,
oui. Oui. Absolument. Absolument.
Puis je me dis, comment est-ce que collectivement, on parlait justement de tout ce que, si on résume ce qu'on parlait depuis tantôt, en politique et tout. Ce qui démotive, j'ai l'impression qu'on s'engageait plus avant.
Oui. Politiquement?
Mais en général, dans la société. Puis je suis pas en train de dire, vous autres, plus de pointage, j'essaie de rallumer le feu. Moi-même, qui, tu sais, je veux dire, j'ai été longtemps un éternel optimiste, il est énormément confronté. Moi, mon running gang, c'est toujours, faites-moi pas gagner à l'automax. J'ai mon bunker dans Charlevoix, j'ai ma serre intérieure. Tout le monde rit de moi, j'ai mes éoliennes, tout est plané. J'ai pas encore trouvé la caisse de AK-47.
Puis t'as pas trouvé le numéro gagnant non plus.
Non, ça aussi. Il y a des détails dans mon plan, là. C'est pas un plan parfait, je le sais. Mais il y a une espèce de sacrifice, man. J'ai l'impression qu'on s'en vient. Tu sais, de par l'Internet, de par ce qu'on lit, j'ai l'impression que les menaces, c'est un grand mot qui te fait que, Chris, man, tes barrières sont de plus en plus fortes. Puis je m'ennuie un peu de la collectivité, tu sais.
Mais tantôt, on parlait de jouer dehors. Il y a un mouvement individualiste qui a vraiment commencé à la fin des années 70, début des années 80. L'individu devient plus important que le collectif. On a eu des grands projets collectifs. On en a moins. Puis, tu sais, je te parle d'individualisme. Il y a aussi beaucoup d'isolement. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire que les données montrent aux États-Unis et ailleurs. Les gens sont de plus en plus isolés. On appelle ça le capital social.
Ouais.
Combien d'amis tu as? Si c'est un problème, qui tu peux appeler? Combien de gens t'as vu cette semaine? Puis récemment, là, il y a une autre étude qui est sortie. Le capital social est particulièrement déficient chez les Trumpistes. Il y a beaucoup de gens seuls qui se radicalisent parce qu'il n'y a personne qui te prendre par l'épaule et te dire « Hey, attends une minute, là. C'est pas vrai qu'il y a des enfants dans une pizzeria qui se font sodomiser par des démocrates. Arrête, là. » Mais quand ton univers mental, ce n'est que des gens qui disent ça, qu'est-ce que tu penses qui arrive?
Bien, juste socialement, on parle politique, mais tu sais, c'est prouvé que les jeunes, les hommes dans vingtaine, lors de cruiser, d'aller aborder une femme, c'est une source d'anxiété pour eux autres. La porn, écoute, c'est tellement des phrases. Moi, j'ai parlé avec un gars récemment, fin vingtaine, puis lui, son but cette année, là, je te niaise pas, puis c'est un homme en couple, mais c'est pas parce que t'es un homme en couple là, que t'es, ou une femme en couple, mais que t'as pas ton plaisir personnel quand l'autre est pas là. Ou anyway, la masturbation matinale, ça commence bien une journée, on peut-tu être d'accord? Bon. Moi, je me dis, je me crosse, je commence ma journée.
Je te laisse assumer exactement cette déclaration-là.
Oui, oui, ça va être... Non, mais joke à part. Et lui, c'était son but, c'était de recommencer à avoir ses petits plaisirs personnels, on va dire ça, sans de la porn. Okay. Une rééducation, une auto-rééducation. Écoute, on est
rendu... Ça passait beaucoup par la porn.
Ben, ça passe, tu sais, je veux dire...
Il y a quel âge?
27 ans.
OK.
Puis, honnêtement, tu sais, je pense que c'était Bill Maher, un de mes humoristes préférés, qui a dit que... Ironique que les réseaux sociaux ont tout fait, sauf... nous rendre social.
Mais tu veux, quand tu parles de difficulté à aborder une femme, chez cette génération-là, c'est la génération qui a grandi dans l'Internet. Où, si tu veux parler à quelqu'un que tu connais pas, t'envoies « Salut, ça va? » Le contact dans le réel, c'est perdu. Et moi, je reviens souvent à ça. Ça explique beaucoup des problèmes qu'on a présentement. Il y a tout le mouvement là, des incels. Les hommes qui ne sont pas capables d'avoir de compagne, qui ne sont pas capables d'avoir de sexe. Puis, mettons une chose au clair tout de suite, il n'y a pas une fille qui doit du sexe à un homme. Il n'y a pas une fille qui doit un...
Non, mais on parle de réponse. Désir simple aussi, puis dans les deux sens. Là,
moi, je pense que les lieux où socialiser, les lieux réels où socialiser, ont beaucoup diminué au fil des décennies.
Ah ouais.
Ça donne...
Quand la dernière fois, t'en as quelqu'un, dit, on sortit dans un bar un soir.
Hey, mais le nightlife à Montréal. Tantôt, on parlait de...
Radio Lounge.
Du Radio Lounge, où je suis jamais allé, toi, t'es allé. Ouais. Mais toute cette partie-là de Saint-Laurent, là, je veux dire, il y avait des bars partout. Je te dis pas que c'était mieux, Max. Vrai, ouais. Mais il y avait des endroits où on pouvait communier ensemble en vrai. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Fait que je reviens aux incels. Disons, au lieu de te dire, hey, écoute, j'ai pas appris à socialiser, c'est plus facile de tomber dans la dynamique de Andrew Tate et compagnie, de dire ah, « c'est toutes des ci, puis c'est toutes des ça. C'est de leur faute, ça va pas bien. C'est la faute du féminisme. » C'est peut-être que tu trouves un réconfort là-dedans, mais c'est pas la réalité plus.
C'est la définition même de « peux-tu régler tes blessures profondes, premièrement, puis t'asseoir devant quelqu'un ici qui prend des notes. » Puis deux, je veux dire... Puis j'ai ça, toujours avoir ce discours-là, puis j'ai... C'est assez lourd parce que même dans le show, je vais en parler sans que ça fasse dans mon temps parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire. Mais il y avait un côté romantique à. Tu t'en souviens? Dans le bar, t'es chum, elle vient de rentrer, elle est au bout du bar, elle est belle, t'es nerveux, t'es papillon, t'as mal au ventre, prends une bière, t'as donné le courage. Il fallait même calculer assez d'alcool pour me donner le courage, pas trop pour pas avoir l'air épais. Numéro de téléphone, une fois sur deux, c'était un vrai ou un faux. Non, mais tu comprends, il y avait tout... Mais ça faisait partie d'un certain charme.
Oui.
Chris, on parlait de la porn. Dépanneur, la revue, dernier étage. Tu ouvrais, si, tu regardais l'image. Tu te sauvais à la maison en te concentrant. Tu comprends-tu?
Tu sais, je t'écoute.
T'entends qu'on méritait notre porn.
Moi, le premier Playboy que j'ai acheté...
ça a pris une heure pour revenir.
J'avais 20 ans, 21.
Tu l'as acheté?
Oui, oui.
De tout mon courage, mais de mon admiration, j'ai jamais eu ce courage.
Puis j'ai été l'acheter comme sous l'impulsion de mes colocs, tu sais, que je vais pas nommer. J'étais à l'université. Mais là où je veux en venir, c'est avant.
Impulsion de tes colocs?
Non, mais c'est comme, il y avait une fille en particulier dans le Playboy. Ah, ouais? Les gars voulaient la voir. Fait,
on a le même âge.
Je me rappelle pas. Honnêtement, je me rappelle pas. Okay. Mais ceci étant dit, est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que si aujourd'hui, t'as 12 ans, puis ton introduction à cette chose formidable que sont les relations sexuelles, c'est de la porn à laquelle tu peux accéder et avoir absolument tout.
Sous toutes ces formes-là.
Ajoute à ça que ton social se fait par les réseaux sociaux beaucoup. T'sais, encore une fois, une stat d'un papier que j'ai lu, quand tu compares combien de temps les jeunes passent avec des amis en vrai, comparé à il y a 20 ans, mettons, ça a coupé de moitié. Mais tout ça en même temps, là, ça donne le vertige à quel point tu vas créer des personnes avec les réseaux sociaux asociales. Tu sais, moi, là, Max, tu as le même âge que moi. Ouais. La façon de voir un sein quand j'avais 12 ans puis que les hormones commençaient, là, c'était d'ouvrir le catalogue puis d'aller dans la section des dessous. Puis là, tu voyais des femmes en soutien-gorge. Aujourd'hui, au même âge, là, je verrais des affaires que je ne serais pas prêt à voir.
Ah non, tu peux voir un gang-bang.
Ce serait diablement excitant, tu sais, à un niveau primaire. Mais je. Mais voyons, c'est pas bon.
Ben, moi, j'aurais
pas bon pour le cerveau d'un kid.
Mais juste une parenthèse, c'est long parce que on sait de quel catalogue tu parles, on parle de Sears. Et moi, ce qui me faisait dire, je sais pas si tu t'en souviens, moi j'ai des souvenirs, le catalogue est en couleur. Sauf la section des brassières, des sous-vêtements qui étaient en noir et blanc. Ça, c'était la façon de Sears de nous décourager. Ah. Tu te souviens pas?
Je me rappelle pas de ça. Ah, oui. Dans mon souvenir, c'était en couleur.
Ah non, mais moi, c'est. Et puis ça, j'en parle dans mon show aussi. Puis je trouve ça important que ça soit une discussion. On parle d'énergie de la drogue, on parle du sexe en général, mais moi, mon gars qui m'a avoué qu'il regardait de la porn, on a eu cette discussion-là de les petites filles de 12-13 ans qui sont obligées de reproduire et tout ça. Puis...
Tu sais, tantôt...
Oui?
Ben, moi, je voulais juste dire, c'est aussi le niveau de dopamine. Les jeunes sont plus bored. Ils sont plus dans leur chambre à regarder le plafond puis se poser des questions sur leur vie. Ils ont toujours du contenu à consommer artificiel. C'est toujours bombardé d'informations. Fait que je pense que peut-être dans le futur, il va y avoir des pancartes là, qui vont dire « Faites attention à votre niveau de dopamine aujourd'hui. Déposez vos écrans. » Il va peut-être avoir un mouvement, je sais pas. Là.
Tu touches à quelque chose d'important.
Ça a pris une heure, toi aussi.
Le papier dont je parlais, c'est dans le magazine The Atlantic. Ça s'appelle...
Ah, j'adore ce magazine-là.
« End the phone-based childhood now. » C'est « Arrêtez l'enfance basée sur le téléphone maintenant. » Et il est question d'ennui. Les enfants doivent s'ennuyer pour travailler leur imagination. Puis l'imagination, ça fait partie du développement cérébral, personnel, social. Si tu as de la dopamine constamment, moi, je sais ce que la dopamine me fait quand je regarde des Instagram, puis je regarde du Reddit, puis etc., avant de me coucher. Je me couche, puis c'est comme s'il y avait un stroboscope quand je ferme les yeux. Quand tu es un enfant, où tu vas trouver...
Comment tu mets un switch off?
Comment tu te projettes hors de toi dans des moments où il n'y a rien? Tu sais, c'est la première génération où c'est possible. Avant, oui, il y avait le jeu vidéo, la console Atari, le Cogeco, etc.
Space Invaders.
Mais à un moment donné, il fallait que tu sacres ton camp de chez vous. Tu ne peux pas le traîner tout le temps. Fait que la dopamine devient toujours présente. Il faut toujours que tu topes ça. Je te dis, je suis très inquiet pour le cerveau des jeunes.
C'est tellement lourd parce que tantôt, je me dis, à chaque fois qu'on arrive après une heure, je dis toujours aux gens, parce que moi, depuis le début, je veux avoir le côté loufoque en plus wild. Puis là, je me dis, là, il est temps qu'on s'amuse justement. Puis d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été là. À partir de maintenant, on s'en va sur le Patreon pour découvrir un autre côté de Pat. Puis là, je me dis, mais en même temps, je trouve que quelle fin de dire, je m'inquiète beaucoup pour le cerveau des jeunes. Bonsoir tout le monde. Bonne chance avec vos jeunes à la maison. J'espère que vos pots de pilules sont pleins.
Je te l'avais dit que je n'étais pas loufoque.
Non, mais là, je veux être là. On tombe dans l'autre côté. Pas forcément question rafale. Mathieu a mentionné une couple d'affaires.
Juste comme on est dans la version payante, c'est là que je te dis, c'était qui la fille dans Playboy? Ouais,
c'est qui?
Tu dis, je vais rentrer dans le char en feu pour le sauver, puis je vais pas sortir avant de l'avoir sorti. T'sais.
Moi, je me souviens de partir de l'hôpital, puis je te niaise pas, là, avoir sérieusement songé à mettre le char, ses flashers, avec les quatre portes ouvertes.
tu veux pas faire un accident. Non, mais c'est beau quelque part.
Ben oui.
En fait, c'est la grande aventure humaine. Je veux dire, on n'est pas là si des millions de personnes avant nous autres se sont pas souciées de leur. Ouais. Géniture, tu sais.
Ouais, tu sais, surtout quand ils sont arrivés dans les vaisseaux.
Oui, 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 oui.
Extraterrestres.
Menés par Raël.
Exactement. Et de dire, oubliez pas, tu sais, ce qui fait plaisir à une société, c'est un nouveau stade.
Oui, et les réseaux sociaux le plus jeune possible.
Ouais, puis non, parce que je pense, regarde, tout ce qui est réglé, c'est pyramides, je vois clairement
ça. Le stade, moi, je pense que ça n'a pas été construit par des gars de la FTQ Construction. Là.
Non.
Si tu crois à ça, t'es vraiment plus cave que je pensais.
Non, mais attends, en même temps, c'est l'autre, parce que moi, j'aime ça. Tu sais, je crois la vie après la mort, je crois à la réincarnation. Okay. Toi, j'imagine que non.